Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, dernière nouvelle de la démocratie participative. Bonjour Hélène Landemort.
Bonjour.
Bonjour Maud Dugrand.
Bonjour.
Hélène Landemort, vous êtes professeure de sciences politiques à l'université de Yale, aux États-Unis. Vous travaillez sur les questions liées à la démocratie. Et vous êtes en France en ce moment pour suivre la Convention citoyenne pour le climat. Maud Dugrand, vous êtes journaliste. Vous êtes passée par l'Humanité, par le journal Le Monde. Et vous publiez La Petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative aux éditions du Rouergue. Alors, renouveler la démocratie en y associant plus étroitement les citoyens. Voilà un projet qui, à force d'être répété, semble davantage tenir du mantra que d'une réalité palpable. Il sera, à n'en pas douter, un des passages obligés des professions de foi pour les prochaines municipales. Pour autant, des expérimentations existent qui nous renseignent sur la façon dont peut s'exercer cette démocratie participative. Depuis le mois d'octobre, 150 personnes planchent dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat sur les mesures à prendre pour que la France réduise massivement ses émissions de gaz à effet de serre. Elles feront connaître prochainement leurs propositions. À un autre niveau, local cette fois, et depuis 2014, la commune de Saillant dans la Drôme expérimente la démocratie participative au quotidien. La majorité municipale est issue d'une liste citoyenne. Saillant est devenu un laboratoire de la façon de renouveler la politique au quotidien. Alors, quels enseignements tirés de ces expérimentations? Sont-elles duplicables? Le système politique actuel permet-il de les développer? Dernière nouvelle de la démocratie participative, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Hélène Landemort et Maud Dugrand. Et pour commencer, première question, la même à l'une et à l'autre, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces expérimentations en particulier? Maud Dugrand, il faut préciser peut-être qu'il y a un lien affectif à la ville de Saillant, vous concernant.
Je suis originaire de ce village, ma mère y vit toujours et j'y ai passé une partie de mon enfance. Et étant journaliste, je venais de quitter Paris il y a 10 ans et j'ai suivi, du coup, je ne me suis pas installée à Saillant par choix. Je suis à 20 minutes de Saillant, je vois les montagnes du village de chez moi, mais j'avais besoin d'avoir ce petit pas de côté par rapport à mon village de famille. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis de pouvoir écrire ce livre, parce que je pense que si en plus j'avais fait le choix de retourner vivre dans ce village, je n'aurais pas pu écrire ce livre, clairement.
Hélène Landemort, qu'est-ce qui fait que vous, qui êtes universitaire et qui travaillez aux États-Unis, vous avez eu envie de vous intéresser à cette expérimentation française? C'est quoi? C'est l'exotisme de cette expérimentation vue d'Amérique?
Ah bah déjà, moi, je suis française toujours, donc je suis très contente qu'il y ait une expérimentation de ce type qui ait lieu dans mon pays, qui me donne l'occasion de revenir observer quelque chose que j'étudie d'un point de vue beaucoup plus philosophique, abstrait, distancié, sur des cas qui sont en général dans des langues étrangères. J'ai suivi des choses en Finlande, en Islande aussi, mais là, c'est vraiment unique pour moi de voir mes concitoyens en action au Palais d'Iéna.
Et quand ils sont en action, donc au Palais d'Iéna, c'est-à-dire au siège du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, ça donne par exemple ceci.
Nous allons démarrer ce débat sur le financement, les financements possibles des mesures qui permettent de lutter contre le changement climatique. Tristan ?
Moi, je serais pour que l'effort en fait soit partagé. On n'est pas obligé de tout faire porter sur les mêmes personnes. Après, ça dépend où est-ce qu'on prend l'argent. Je pense que le budget de la défense, on pourrait peut-être prendre. Ça fera un peu moins de rafales à acheter, un peu moins de tanks et de chars. Mais prendre sur, par exemple, l'éducation, qui galère déjà pas mal, et vu que ça forme nos jeunes, je serais contre.
Voilà, des extraits des échanges qu'on peut entendre dans le cadre de cette convention pour le climat et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de la convention. Vous avez écrit, Hélène Landemort, une tribune au sujet de cette initiative en disant notamment ceci. Cette convention citoyenne a déjà accompli une tâche historique. Elle fonctionne bien et elle est visible. Elle fait ainsi la démonstration empirique, symboliquement importante, qu'impliquer des citoyens ordinaires sur des enjeux politiques complexes au niveau national est possible. Ça veut dire que pour vous, avant même que de connaître les propositions qui seront faites et le sort qui leur sera réservé, le simple fait que cette convention-là existe, c'est déjà un pas important et c'est déjà une initiative démocratique importante.
Oui, mais moi je me place d'un point de vue à la fois philosophique et un peu global, si vous voulez. Je m'intéresse à l'évolution des pratiques délibératives sur l'ensemble des pays où c'est possible. Donc je considère que, au moins pour les autres, ça donne un exemple de quelque chose qui est faisable, réplicable dans certains de ses aspects. Et ça, c'est très très bien, quoi qu'il arrive en France. Après, j'aimerais quand même qu'il en sorte quelque chose, bien entendu, de cette convention. Ce serait vraiment dommage si ces conclusions étaient écartées, ignorées, n'étaient pas mises en place. Donc je pense que ça importe aussi, mais de manière plus générale, c'est vraiment bien pour la démocratie délibérative.
D'ailleurs, vous utilisez le terme de délibératif plutôt que de participatif, juste brièvement.
Ah oui, brièvement.
Quelle différence vous faites entre les deux ?
J'ai tendance à penser que la démocratie participative, il y a quand même une question de nombre et d'inclusivité qui est vraiment très importante. Alors que là, on est dans un schéma où on parle de 150 citoyens tirés au sort sur 67 millions de Français. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a c'est une forme de participation, mais je mettrais l'accent sur la délibération. Voilà.
Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est peut-être plus facile de faire de la démocratie participative au niveau local pour avoir une masse critique. Maud Dugrand, en tout cas, l'idée d'impliquer davantage les citoyens dans les décisions, c'est la philosophie qui a porté cette liste citoyenne en 2014 au pouvoir,
oui.
À la tête de Saillant.
De dire dans l'histoire de Saillant qui est singulière, c'est que la liste citoyenne s'est constituée après d'abord une expérience de commun, qui était la lutte contre l'implantation, un projet d'implantation d'un supermarché. Donc déjà, de toute façon, pendant 2 ans, les citoyens du village ont été travaillés par une lutte commune contre un projet qu'ils jugeaient absurde, parce que l'ancien maire avait accepté qu'un supermarché vienne s'installer à l'extérieur du village, alors que le village a encore des commerces, et surtout décidé sans concertation. Donc cette période-là a été charnière et très importante, parce que ça a été un vrai travail d'éducation populaire. Ils me le disent eux-mêmes quand je mène l'enquête.
Sachant que par ailleurs, ce que vous mentionnez dans votre livre Maud Dugrand, La Petite République de Saillant, c'est que ça se passe aussi sur une terre qui, historiquement, est habituée à ce qui est une participation citoyenne. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans un endroit tout à fait comme les autres politiquement et du point de vue de la conscience politique.
Oui, tout à fait. On est dans une région, la vallée de la Drôme est une région protestante. Donc les protestants, fuyant les persécutions, sont venus s'installer dans une vallée qui a été plutôt accueillante. Les catholiques et les protestants ont pu vivre longtemps ensemble. Une région républicaine, engagée dans la Révolution française. Saillant a donné 2 enfants, 2 députés au moment de la Révolution. Et puis aussi, contre le coup d'État napoléonien, là il s'est passé quelque chose. Il y a eu 3 régions en France qui ont lutté contre les troupes napoléoniennes, dont Cré, qui est la petite ville de 8000 habitants à côté de Saillant. Et 200 artisans paysans ont été emprisonnés dans le donjon et ont été déportés en Algérie aussi à cette période. Donc bien sûr, il y a un terreau, on est au pied du Vercors aussi, évidemment, région de résistance.
Alors, s'agissant de la Convention citoyenne pour le climat, Hélène Landemort, ce sont des citoyens qui ont été tirés au sort. Ce ne sont pas forcément des gens qui avaient l'habitude d'être engagés, pas forcément sur le terrain politique, mais même sur le terrain associatif. Il y a des gens qui apprennent la politique en ce moment, avec cette convention.
Oui, tout à fait. Alors, le tirage au sort, en théorie, ça devrait être une personne, un billet de loterie, si vous voulez. Mais quand on a des petits nombres comme ça, 150, il faut faire de la panélisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre des catégories de sexe, d'âge, de catégories socioprofessionnelles, de géographie, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, sur la base de 250 000 numéros de téléphone, etc. Et ce qui est vraiment une spécificité des assemblées tirées au sort, c'est que justement, on amène, alors en les payant, hein, par ailleurs, ils reçoivent une compensation, leurs frais de transport sont remboursés, etc. Enfin, même payés à l'avance pour ne pas les dissuader. Du coup, on récupère des gens qui ne sont jamais investis en politique autrement, quoi. Et donc, c'est très important parce qu'on est dans une phase de désaffection envers la démocratie représentative. Il y a des gens qui ne s'impliquent plus et là, on arrive à les ramener, en fait, à entendre ces voix-là.
Mais est-ce que c'est pas leur donner une énorme responsabilité, c'est-à-dire à la fois les former justement, les acculturer à la politique en leur donnant aussi la possibilité, si ce n'est de prendre des décisions, mais en tout cas d'orienter des décisions qui vont être fondamentales pour l'avenir de la France.
Absolument. D'ailleurs, la promesse du président, c'est de soumettre sans filtre le contenu en fait, de ses propositions, alors soit à référendum, hein, soit à application réglementaire, soit à débat parlementaire. Alors bon, il y a toute une discussion autour du sans filtre, mais quand même, a priori, vous avez raison, c'est une responsabilité très lourde. Ils en sont parfaitement conscients, ils sont extrêmement anxieux par rapport à ça, justement. Ils se sentent regardés, ils se sentent une grande responsabilité, mais je ne vois pas pourquoi on devrait considérer que c'est hors de leur portée, si vous voulez, d'être à la hauteur de cette responsabilité.
Est-ce qu'ils se sentent légitimes, ou en tout cas, est-ce qu'ils craignent qu'on puisse leur reprocher de ne pas l'être ?
Absolument. En fait, dès la première session, cette question était sur leurs lèvres. Hein. Ils ont dit... qui on est, on a été tiré au sort, on n'est pas la France, notre légitimité, il faut la construire, c'est une phrase que j'ai entendue. Oui, bien sûr, ils se posent cette question tout le temps.
Est-ce qu'elle se pose aussi cette question de la légitimité assaillant mode de
C'est d'autant plus intéressant qu'au bout de 3 ans de mandature, la municipalité s'est dit, enfin, la municipalité devait réformer le plan local d'urbanisme. Et ils se sont dit, chouette, on va pouvoir expérimenter la démocratie participative avec la réforme du PLU. Et du coup, ils ont mis en place aussi un panel citoyen. Ils ont tiré au sort 12 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans et qui étaient décisionnaires pour le texte final du PLU. Et moi, ce que j'ai constaté, notamment dans les gens que j'ai rencontrés, certains que je connais très bien, qui ont été tirés au sort, expriment quelque chose que je retrouve dans ce que je lis sur la Convention citoyenne. C'est-à-dire d'abord une surprise d'être tiré au sort. Aussi, un certain honneur, ils expriment « je me suis sentie fière, je me suis sentie choisie ». Vient ensuite l'inquiétude « est-ce que je vais être capable ?» Et ensuite la responsabilité « je dois y aller, je ne peux pas me défiler ». Donc je trouve que quand même ça positionne le citoyen dans quelque chose de nouveau.
Mais ça le positionne pour celui qui était au sort, mais pour celui qui ne l'est pas, est-ce que le nouveau PLU, le nouveau plan local d'urbanisme, a pu être contesté du fait que ceux qui l'avaient décidé étaient des gens qui n'avaient peut-être pas les compétences pour le faire, en tout cas à qui on pouvait reprocher cette absence de compétences.
Alors, sur la question des compétences, non, franchement.
Parce qu'il y a eu une formation.
Ils ont travaillé 2 ans. Donc, même les opposants dans le village reconnaissent que le travail qui a été fourni est totalement inédit. Donc là, il y a vraiment la compétence, un travail régulier, des réunions tous les mois, des experts, des arpentages de territoire, des lectures de textes. Ils ont été accompagnés et ils ont énormément travaillé. Par contre, ça n'a pas empêché une opposition de naître dans le village, d'ailleurs, à ce moment-là, considérant que le panel citoyen n'était quand même pas complètement représentatif du village et que pour autant, il était trop en dehors des débats dans le village, qu'il venait pas forcément à toutes les réunions publiques, etc. Donc, évidemment, la démocratie continue à vivre même avec ce type d'outils, même, je dirais, même encore plus.
Et d'ailleurs,
plus
petite parenthèse pour les prochaines municipales, et puisqu'on est en période où le CSA écoute beaucoup ce qu'on dit, il faut préciser donc que la municipalité sortante se représente. Il y a aussi une liste d'opposition qui est conduite par Marie-Christine Casals et qui réclame elle aussi une vraie participation. En tout cas, on voit à quel point cette idée de faire participer les citoyens, c'est quelque chose qui a irrigué l'ensemble des candidats. Hélène Landemort.
Oui, j'avais une réaction à ce que vous veniez de dire sur ce que vous décrivez, en fait. Parce que dans ma tribune, j'avais exploré la possibilité de mettre en compétition d'une certaine manière différentes formes de représentation démocratique, certaines élues, certaines tirées au sort. Et ce que je vois dans l'exemple de Saillant, c'est qu'en fait, c'est une hybridation des modes de représentation démocratique. Vous avez des gens tirés au sort, des gens qui s'auto-sélectionnent dans le processus, des élus et que tout le monde a l'air de travailler un peu en... peut-être pas en symbiose, mais enfin, en tout cas, avec un certain esprit collaboratif pour faire en sorte que les choses avancent. Ça, je trouve ça très, très prometteur.
Voilà. Après, ce n'est pas la symbiose pour autant. Mm-hmm. Parce que le processus, la participation, ce n'est pas simple. L'accès à la parole est un marqueur social. Il ne faut pas non plus tomber dans l'injonction à la participation. Certains ne pouvant pas aller, n'osant pas aller parler, n'osant pas aller aux réunions. La question du temps est fondamentale. Le temps de la citoyenneté dans un temps contraint par le travail, l'économie, élever les enfants, payer un crédit. Bon, voilà. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas la symbiose du tout. Et au contraire, même à Saillant, les oppositions sont assez frontales aussi sur des questions de fond politique et de projet de société.
Je voulais venir justement sur cette question du temps que l'on investit quand on fait de la délibération ou de la participation, Hélène Landemort, c'est-à-dire que ça n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas là de parler de compétences, mais d'avoir du temps disponible pour se consacrer à cet exercice démocratique.
Oui, ben, c'est pour ça qu'ils se réunissent le week-end, hein, en prenant une demi-journée sur leur temps de travail. Et c'est pour ça qu'ils sont compensés aussi, parce que ça représente quelque chose, tout ce temps qu'ils ne passent pas avec leur famille, ou à simplement se récupérer de leur semaine. Et d'ailleurs, ils en font beaucoup plus que les 6 week-ends auxquels on leur avait demandé de s'engager. Ils travaillent entre les sessions, ils font des webinaires d'au moins 1 heure entre les sessions. Ils sont sur J'en parle, la plateforme en ligne où ils échangent énormément. Ils ont une connexion par WhatsApp où ils échangent 300 messages par jour. Enfin, ils bossent comme des chiens. Et vraiment, c'est très impressionnant.
Mais est-ce que ça n'est pas un travail qui devrait relever exclusivement des représentants, c'est-à-dire du système représentatif? On élit des équipes municipales, on élit des députés. C'est leur métier que de nous représenter. Pourquoi ajouter cette strate-là, Hélène Landemort?
Parce qu'on voit très bien que depuis des décennies, en fait, ce modèle ne marche plus très bien et que donc il y a une crise de la représentation et qu'on est en train de repenser ce que ça veut dire la représentation démocratique et comment on peut l'améliorer en un sens. Et moi, je pense que la représentation électorale remplit certaines fonctions, mais pas toutes, et que la représentation démocratique par d'autres modes peut venir renforcer le système global, mais peut-être effectivement en réfléchissant à une redistribution des rôles.
Mode du grand.
Oui, il y a une volonté de beaucoup de citoyens de création de nouveaux espaces. On vient de vivre un épisode qui a duré plus d'un an des Gilets jaunes. Au bout d'un mois, les Gilets jaunes ont exprimé cette soif démocratique. Donc, ça serait quand même compliqué de continuer à ne pas entendre quand même que dans ce pays, des choses se passent. Donc, il y a une question de concentration des pouvoirs, de verticalité et d'horizontalité qui est en ce moment en débat.
Politique, Hervé Gardette.
Et nous sommes en train de parler aujourd'hui des dernières nouvelles de la démocratie participative et délibérative en compagnie de la journaliste Maude Dugrand qui publie La Petite République de Saillant et de la politiste Hélène Landemort, professeure à l'université de Yale aux États-Unis. Maude Dugrand, vous disiez, bah voilà, il y avait aussi cette réaction contre une concentration, une verticalité des pouvoirs. Ça, c'est ce qui caractérise quand même le système politique français. Hélène Landemort, vous évoquiez tout à l'heure la promesse qui a été celle d'Emmanuel Macron, de prendre sans filtre les propositions qui seraient faites, de les faire passer en projet de loi ou par référendum. Mais quand il est venu s'adresser à la Convention, il a quand même dit aux citoyens qu'il faudrait quand même que les propositions soient les plus précises possibles pour qu'elles puissent être reprises. Est-ce que le système politique français tel qu'il existe, en tout cas au niveau national, peut vraiment faire fonctionner cette démocratie délibérative? Est-ce qu'à la fin, ça n'est quand même pas toujours le président qui tranche?
C'est une vraie question. Il y a une verticalité du pouvoir, comme vous disiez, qui est inscrite dans la Constitution, en quelque sorte. Donc c'est très difficile d'imaginer une place pour ces nouvelles formes de participation et de délibération. Il y a toujours un risque qu'il y ait une récupération, que ce soit du democracy washing, que finalement ça serve à légitimer un système existant au lieu de le transformer de l'intérieur. Mais bon, moi je pense que ça va se jouer un peu justement dans est-ce que les gens se mobilisent derrière ces nouvelles formes de participation et de délibération, et est-ce qu'on arrive à changer les rapports de force. Et je pense qu'il y a beaucoup de demandes de la part des gens pour ce nouveau mode de participation. Donc moi, j'y crois.
Mais pour changer les rapports de force, est-ce qu'il ne faut pas changer l'organisation du pouvoir?
Oui, mais donc on parle beaucoup de réforme constitutionnelle. Et donc je pense qu'on va peut-être s'orienter vers ça à terme. Mais déjà, il faudrait peut-être par des lois organiques réformer, par exemple, le CESE. On dit que ça va devenir la chambre de l'incubation de la participation citoyenne. Donc... avant même de penser à une réforme constitutionnelle, il y a déjà des choses à faire.
C'était une des intentions, hein, d'ailleurs, de la liste citoyenne qui a été élue à Saillant, Maude Dugrand, que de changer un petit peu la structure du pouvoir. Plutôt que d'avoir un maire ou une maire, alors si ce n'est tout puissant, mais enfin, en tout cas qui concentre le pouvoir, il y avait par exemple la volonté de pouvoir avoir 2 maires. Comme ça existait d'ailleurs, j'ai appris ça dans votre livre, au Moyen-Âge.
Absolument.
Sur cette commune.
Il y avait des consuls qui étaient élus par des familles, par les principales familles du village. Oui, tout à fait, ils se sont attaqués à la question de la gouvernance, en fait, très vite. Il y avait 3 piliers, donc c'était la collégialité, la transparence et la participation. Et ils se sont vraiment attaqués aussi à la collégialité en essayant de limiter la concentration des pouvoirs, justement en organisant un binôme de tête, c'est-à-dire la première adjointe et le maire ont travaillé vraiment pendant 6 ans ensemble, et chaque conseiller municipal travaillait en binôme, je dis travaillait encore jusque pendant 2 mois, ou en trinôme. Donc déjà, ça c'est très concret, ça les a également énormément transformés, eux, en tant qu'élus. C'est-à-dire, bon, déjà, ils étaient novices en politique, mais ils ont appris à travailler ensemble en ayant parfois des profils différents aussi. Voilà, donc ça, c'est une vraie expérimentation tout au long de la mandature.
Hélène Landemort, je rappelle donc que vous enseignez aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a, si ce n'est le même genre d'expérimentation comme ce qu'on peut voir à Saillant, mais des choses qui pourraient être assez proches? Je pense par exemple au community organizing qui est né à Chicago, ce sont des citoyens voilà qui se réunissent et qui essaient de prendre en charge un certain nombre de dossiers au niveau local. Est-ce que ça pourrait par exemple se rapprocher de ce qui se fait dans notre démocratie ou dans nos petites démocraties participatives très locales?
Oui, aux États-Unis, la démocratie participative locale, elle a quand même une tradition de longue date. Donc il y avait les town hall meetings du Massachusetts, tout ça, de New England.
C'est-à-dire
C'était un peu ce que vous décrivez à Saillant. D'ailleurs, je pense que c'était des réunions ouverte à tous les citoyens qui venaient prendre des décisions pour s'auto-gérer au niveau local, en quelque sorte. Par contre, au niveau fédéral, non, il n'y a pas grand-chose qui se passe, surtout en ce moment, je dirais. Il y a eu cependant, alors y a ce que vous décrivez, je pense, correspond au budget participatif. Donc, ce sont dans certaines villes comme Chicago, San Valero en Californie et aussi New York, ils laissent les citoyens décider de budgets assez conséquents, c'est des dizaines de milliers de dollars, de l'allocation du budget par des citoyens qui s'auto-sélectionnent dans le processus. Il y a aussi ce que fait Jim Fishkin, donc à Stanford, il a un centre pour la démocratie délibérative, et lui, ça fait des années, ça fait 20 ans qu'il... depuis les années 90, qui d'ailleurs plus que ça, qu'il organise des sondages délibératifs, donc des assemblées de citoyens tirés au sort, beaucoup plus larges que les conventions citoyennes. Typiquement, c'est 250 à 300 personnes, mais pas toujours dans une optique de prise de décision. Enfin, à la base, c'est pour comparer les opinions des gens avant la délibération et à celles qu'ils ont après la délibération, pour montrer que justement la délibération, c'est vraiment important, parce que ça construit des opinions informées, intelligentes, qu'on devrait essayer de cultiver dans nos démocraties. Donc il y a des choses qui se passent. Je pense que d'ailleurs, l'OCDE est en train de faire un rapport où il parle d'une vague délibérative. Dans beaucoup de pays, surtout les démocraties avancées, mais ailleurs aussi, hein, il y a comme un mouvement vers l'intégration des citoyens dans des processus participatifs avec un premium à la délibération.
Et ce qui est intéressant, c'est que pouvoir, par exemple, comment la Convention citoyenne pour le climat a pu intéresser et inspirer d'autres pays avec des régimes assez différents. Par exemple, le Royaume-Uni vient de lancer, lui aussi, sa Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que, justement, cette thématique, Hélène Landemort, elle vous semble susceptible de faire un pas plus important à cette démocratie-là?
Alors, juste pour corriger, en fait, la convention sur le climat du Royaume-Uni, elle était déjà prévue avant que la. Enfin, je veux dire, c'est pas la française qui a influencé.
Ah bah voilà, ça c'est le tic français. On a toujours l'impression que
mais
ça vient de chez nous.
Hein. Par contre, je pense
elle
que ce qui est
lancée
vrai,
après.
Mais ce qui est vrai, c'est que ça leur a donné des ambitions accrues. Je pense qu'ils ont eu un budget plus conséquent, notamment, et que donc c'est important. Je voudrais aussi dire juste un point qui est que. Je ne veux pas donner l'impression qu'il n'y avait rien avant la Convention citoyenne sur le climat en France. La CNDP a fait beaucoup, beaucoup de choses depuis 20 ans. Mais simplement, ce n'était pas aussi visible, ce n'était pas soutenu par le pouvoir de manière aussi, claire. Et donc, je pense qu'il y a un saut qualitatif, en fait.
De la même manière, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas rien avant l'expérimentation à Saillant, mode du grand. Mais c'est vrai que la ville a été extrêmement médiatisée après les dernières élections municipales. Est-ce que ça ne pèse pas, d'ailleurs, sur la vie de cette petite ville d'être considérée comme aujourd'hui le grand laboratoire dont il faut absolument s'inspirer?
Si, énormément. Énormément. Je sais que dans le village, il y a des gens même qui sont en colère contre, du coup, l'équipe citoyenne qui a attiré l'attention sur le village. Je pense fondamentalement que une médiatisation ne fait pas de bien à une communauté humaine qui est en plus en expérimentation.
Et alors vous allez être mal vu, vous, dans Saillant, là,
voilà,
de votre
j'ai
livre.
J'ai assumé d'écrire ce livre parce que, justement, je viens de ce village et du coup j'ai eu envie de lui raconter les choses dans la complexité. Et évidemment, ça a créé des clivages dans le village. Il ne faut pas les nier. La participation ne va pas d'un coup effacer notamment la question sociale, l'accès au savoir, l'accès à la parole, les inégalités. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus que ça devienne une sorte... Bah, d'ailleurs, c'est Laurent Jean-Pierre qui est le politologue qui dit « Faute de redistribuer de la richesse, on va redistribuer de la parole. Ça vient d'en haut, etc. » Donc voilà, pour le coup, c'est compliqué tout ça. Mais bon, Pierre Rosanvallon dit « La démocratie, il faut l'aimer parce qu'elle est compliquée. »
Voilà, sachant qu'il peut effectivement y avoir cette tentation de la récupération parce que le label participatif ou délibératif est intéressant, en particulier lors des campagnes municipales. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Tout ce qui s'affiche démocratie participative n'en a parfois que le vernis.
Oui, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'un véritable marché de la démocratie participative, tant les acteurs et les prestataires de ce secteur sont nombreux. Deux politistes, Magali Nonjon et Alice Mazot, que j'ai interrogées, ont d'ailleurs publié un ouvrage sur ce sujet, « Le marché de la démocratie participative ». Il y aurait, selon les autrices, une professionnalisation de ce secteur qui ne serait pas simplement le résultat d'une demande sociale pour plus de démocratie participative. Ce serait même l'inverse. On écoute Alice Mazot.
Nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que la dynamique de professionnalisation de la démocratie participative, c'était pas seulement la conséquence d'une demande sociale, c'était pas seulement une réponse à une demande sociale, c'était aussi une des dynamiques qui avait participé à construire cette demande sociale. Et donc c'est en ce sens-là où nous, il nous a semblé important de souligner que tous les acteurs qui avaient contribué à l'élaboration de ces outils, à leur codification, à leur diffusion, à faciliter leur accessibilité, etc., c'était des acteurs qui avaient contribué très largement à la diffusion et à la légitimation de cette norme participative qui est aujourd'hui dans l'air du temps.
Et une question politique est posée par cette omniprésence du label participatif. Selon les autrices, une focalisation excessive sur les moyens fait parfois perdre de vue ce qui devrait être l'objectif de cette démocratie participative. Un exemple, la multiplication des budgets participatifs sur des sujets parfois secondaires fait oublier certaines revendications démocratiques plus fondamentales, notamment sur les grands enjeux de la fiscalité.
La disponibilité des outils permet finalement de pouvoir se focaliser sur le comment on fait participer. Le problème, c'est qu'on s'est focalisé quasiment exclusivement sur le comment. Et cette focalisation, elle a eu pour effet de détourner un peu l'attention sur les finalités, sur le sens politique des dispositifs participatifs. Malheureusement, si je puis dire, les budgets participatifs sont assez emblématiques de cette trajectoire de dépolitisation, parce qu'on avait au départ un instrument qui était présenté comme une innovation radicale de la démocratie, de justice sociale, etc. Et on voit bien que la disponibilité des outils qui permettent finalement de déployer des budgets participatifs à moindre coût a pour effet que bah, ça facilite sa mise en œuvre, certes, mais je suis pas sûr que la multiplication de ces budgets participatifs signifie vraiment une démocratisation des espaces de décision. On voit bien que des pans entiers de l'action publique qui restent extrêmement importants, extrêmement structurants. Vous avez cité les questions fiscales, mais on pourrait citer tout un tas de réflexions sur la privatisation des services publics, locaux, etc. Toutes ces questions-là, elles restent très largement en dehors des dispositifs participatifs, quand bien même ce serait des budgets participatifs.
Voilà, c'est la politiste Alice Mazot qui a coécrit cet ouvrage, Le marché de la démocratie participative, publié en 2018 aux éditions du Croquant.
Une courte réaction, Hélène Landemort.
Oui, mais c'est tout à fait vrai. Mais il y a la question de quel pouvoir on donne réellement à ces nouvelles formes de démocratie citoyenne. Et sur quoi on les fait travailler et qui participe. C'est-à-dire que si on les fait juste décider sur un petit budget, ben encore de quelques millions d'euros, c'est pas forcément très signifiant. Si en plus c'est que les gens qui ont le temps de venir qui y décident, c'est pas non plus très démocratique. Donc il y a toutes ces questions bien sûr qui sont incluses là-dedans.
Ben merci beaucoup Hélène Landemort et puis bonne fin de séjour en France. Merci. Pour suivre cette convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup Maud Dugrand. Je rappelle La Petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative. C'est publié aux éditions du Rouergue.
Merci.
Politique, émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, avec à la prise de son aujourd'hui Jordan Fuentes. À 12h45, la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Je vous retrouve lundi dans les matins de France Culture dès 7h. Et dans un instant, le journal de 12h30.